Bienvenue à mes auditeurs dans cette émission sur les Pères de l'Église, où nous parcourons la deuxième aux Corinthiens avec en main le commentaire de Saint Jean Chrysostome. Nous sommes à la dixième homélie de Saint Jean Chrysostome. Et nous nous situons au début du chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente matérielle où nous demeurons se dissout, Dieu nous réserve une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme, mais qui est éternelle et dans les cieux. Le dogme qu'il leur coûtait le plus d'admettre, c'était le dogme de la résurrection. Ils cherchent à l'établir de plus en plus. Ils invoquent les jugements même de ses auditeurs et voici comment ils procèdent. Ils trouvent une autre occasion d'entrer en matière. Ils les avaient déjà tirés de leur erreur. Maintenant, il dit... Nous savons que si cette tente matérielle où nous habitons vient à se dissoudre, Dieu nous en réserve une autre qui n'a pas été faite de main d'homme, qui est éternelle et dans les cieux. Il en est qui, pour cette demeure terrestre, entendent le monde où nous sommes. Je crois plutôt que l'apôtre fait allusion au corps. Voyez maintenant comment, par les noms eux-mêmes, ils montrent la supériorité des biens à venir sur les présents. Au mot terrestre, il oppose le mot céleste. Au mot tente, qui peint la fragilité, le peu de durée des choses d'ici-bas, il oppose le mot éternel. C'est pourquoi Jésus-Christ dit « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures ». S'il donnait le nom de tente aux demeures des saints, il y ajouterait quelque autre expression. Ainsi, le Sauveur ne dit pas « Afin qu'ils vous reçoivent dans leur tente », mais « Afin qu'ils vous reçoivent dans les tentes éternelles ». En disant « Une demeure qui n'est pas faite de main d'homme », il fait songer à celle qui est faite de main d'homme. Quoi donc ? Le corps est-il fait de main d'homme ? Non pas. Mais par là, il désigne ou bien les maisons construites par les hommes, ou bien c'est le corps lui-même qu'il appelle une maison que la main de l'homme n'a pas élevée. Alors ce ne serait plus le second terme d'une comparaison, mais simplement une louange et un éloge. Dans cette demeure périssable, nous gémissons et nous souhaitons de revêtir cette autre demeure qui est du ciel. Verset 2. Quelle est cette demeure ? Un corps désormais incorruptible. Et pourquoi gémissons-nous maintenant ? Parce que le corps dont plus tard nous serons revêtus est bien préférable à celui que nous avons aujourd'hui. Il dit qu'il est céleste, parce qu'il n'est plus sujet à se corrompre. Ce corps ne nous vient pas du ciel, sans doute. L'apôtre, par cette expression, veut signifier la grâce qui vient du ciel. Bien loin de nous affliger de quelque épreuve, nous devons les rechercher toutes. C'est comme s'il disait... Vous vous plaignez des persécutions, vous gémissez de voir se corrompre l'homme extérieur. Gémissez plutôt de n'être point persécuté davantage encore, de voir l'homme extérieur se dissoudre si lentement. Voyez-vous comme il retourne la pensée ? Il faut s'affliger de ne pas voir s'accomplir entièrement la dissolution au lieu de se plaindre de l'avoir commencé. C'est pourquoi il donne au corps non plus le nom de tente, mais celui d'habitation permanente, et cela avec raison. Car une tente se dissout aisément, mais une habitation reste toujours. Si cependant nous sommes trouvés revêtus et non pas nus, verset 3, tous ne peuvent attendre la résurrection avec confiance. Aussi l'apôtre ajoute-t-il, si cependant nous sommes revêtus, c'est-à-dire si nous arrivons à l'incorruptibilité, si nous reprenons un corps qui ne soit plus sujet aux souffrances, tous ressusciteront, mais tous ne seront point glorifiés. Les uns ressusciteront dans la gloire, les autres dans l'opprobre. Les uns pour régner dans les cieux, les autres pour être tourmentés dans les enfers. C'est là ce que l'apôtre veut faire entendre par ses paroles, si nous sommes trouvés revêtus et non point nus. Car nous aussi qui sommes dans cette tente, nous gémissons, parce que nous ne voulons pas être dépouillés, mais couverts de nouveaux vêtements. Verset 4. Ne ferme-t-il pas aussi la bouche aux hérétiques en leur montrant qu'il ne s'agit pas d'un corps ou d'un autre, mais de la corruption et de l'incorruptibilité ? Ce qui cause nos gémissements, ce n'est pas le désir que nous avons d'être délivrés de notre corps, car nous ne voulons pas en être dépouillés, mais c'est le désir d'être délivrés de la corruption qu'il renferme. Aussi dit-il, nous ne voulons pas être dépouillés de notre corps, mais nous voulons le revêtir d'immortalité. Il s'explique ensuite. Afin que ce qui est corruptible soit absorbé par la vie. Il semblait pénible à la plupart de quitter leur corps, et c'était combattre leurs sentiments que de dire « Nous gémissons de ne pas vouloir en être délivrés ». Et en effet, si l'âme éprouve tant de peine à se séparer du corps, comment dites-vous donc que nous nous plaignons de n'en point être séparés ? C'est cette objection qu'il veut prévenir. « Je ne veux pas dire, reprend-il, que nous gémissons par suite du désir que nous avons de quitter nos corps. » La mort est une cause de tristesse pour tout le monde, et le Christ lui-même a dit à Saint-Pierre, « Ils te prendront et te mèneront où tu ne veux pas aller. » Mais nous voulons revêtir notre corps d'une robe d'immortalité. Voilà ce qui nous afflige, ce n'est pas d'avoir un corps, mais d'avoir un corps mortel et sujet à la souffrance. Telle est encore une fois la cause de notre affliction. Mais la mort vient détruire ce qu'il y a de corruptible en nous, elle ne détruit point le corps. Et comment cela se fait-il, demandez-vous? Ne posez point cette question, c'est Dieu lui-même qui le fait. Pas de vaine curiosité. C'est pourquoi l'apôtre ajoute « Celui qui nous a créés pour cela même, c'est Dieu ». Il s'agit donc d'une disposition toute céleste et éternelle. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu l'a établie. Il en a décidé ainsi quand, dans l'origine, il nous forma de terre, quand il créa le premier homme, Adam. Il ne l'a point créé pour mourir, mais pour le rendre immortel. Afin de confirmer ce qu'il vient de dire, l'apôtre ajoute « Et il nous a donné le gage de l'Esprit-Saint ». C'est pour cette fin qu'il créa l'homme, c'est pour cette fin qu'il l'a renouvelé par le baptême. Le gage qu'il nous en donne n'est certes point sans valeur, c'est l'Esprit-Saint lui-même. Souvent, il parle de gage, soit pour montrer qu'il s'engage formellement, soit afin d'inspirer par ses paroles plus de confiance à des esprits encore grossiers, ayant donc toujours confiance et sachant. Il parle de confiance à cause des persécutions, des embûches, des menaces de mort continuelles, comme s'il disait « On vous menace, on vous persécute, on vous fait mourir. Ne vous découragez point. Tout cela se fait pour votre bien, ne tremblez point, mais au contraire, ayez confiance. Ce qui vous fait gémir, ce qui vous cause de la douleur, cette corruption dont vous vous plaignez, c'est ce qui doit vous enlever de ce monde et vous arracher à la servitude. » Voilà le sens de ces paroles. Ayant donc toujours confiance. Non seulement quand vous vivez au sein du repos, mais encore quand vous êtes affligé. Et sachant que tant que nous habitons ce corps, nous sommes loin du Seigneur, car nous nous avançons au moyen de la foi et non point en contemplant Dieu lui-même. Mais nous avons confiance et nous espérons sortir du corps et nous présenter devant le Seigneur. Versets 6, 7 et 8. Il place en dernier lieu ce qu'il a de plus de grandeur. Revêtir l'immortalité, c'est moins que vivre avec le Christ. Et voici ce qu'il veut dire. L'ennemi qui nous donne la mort n'éteint pas en nous la vie, ne craignez donc rien. Ayez confiance au contraire si l'on vous fait mourir. Car non seulement on vous soustrait à la corruption et on vous décharge d'un lourd fardeau, mais on vous fait passer de ce monde vers le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre ne se borne pas à dire. Tandis que nous sommes dans le corps, il s'exprime comme si nous étions en pays étranger. Sachant donc que nous sommes, pour ainsi dire, exilés dans le corps et loin du Seigneur, mais nous avons confiance et nous espérons sortir du corps pour nous présenter devant le Seigneur. Voyez-vous comme ils s'étèrent les noms de mort et de trépas, et en substituer d'autres pleins de douceur et d'agrément. Ils l'appellent la mort un voyage vers le Seigneur. Ces noms si doux en apparence qui expriment la vie, ils les remplacent par des noms peu gracieux, et la vie n'est pour lui qu'un exil où nous sommes loin de Dieu. Il en use de la sorte afin qu'on ne s'attache point au présent, qu'on s'en afflige au contraire, que la vue de la mort réjouisse au lieu d'affliger, puisque la mort donne accès à de plus grands biens. Mais on pourrait dire, après l'avoir entendu tenir ce langage, « Quoi donc ? Parce que nous sommes sur la terre, nous vivons loin du Seigneur. » C'est pour prévenir cette objection qu'il ajoute « car nous nous avançons à la lumière de la foi et non en contemplant Dieu lui-même. » Nous le connaissons donc ici-bas, non moins clairement que nous le connaîtrons dans le ciel. Il le dit ailleurs encore, « Nous le voyons comme dans un miroir et en énigme. Mais nous avons confiance et nous espérons, dit-il. Qu'espérons-nous donc ? Nous espérons sortir du corps et nous présenter devant le Seigneur. » Quelle élévation dans ce langage ! C'est ainsi que toujours procède l'apôtre. Il s'empare des paroles de ses adversaires et les tourne dans un sens tout opposé. C'est une remarque que j'ai déjà exprimée. Ainsi donc, nous nous efforçons de lui plaire, que nous soyons près de lui, que nous soyons loin de lui. L'objet de nos efforts, dit-il, c'est de vivre selon sa volonté, que nous soyons au ciel, que nous soyons sur la terre. Nous n'avons rien plus à cœur qu'une telle conduite. Dès ici-bas, vous jouissez déjà et avant toute épreuve du royaume des cieux. Après avoir excité chez eux un tel désir, il ne veut pas qu'un délai trop prolongé les décourage, et c'est pourquoi il leur montre même ici-bas comme l'abrégé de tous les biens qui consistent à plaire au Seigneur. Ce qu'il faut désirer, ce n'est pas simplement de sortir de ce monde, mais d'en sortir après une vie sainte. Voilà ce qui rend la mort agréable. Ce n'est pas la vie elle-même qui est à charge, mais la vie passée à offenser Dieu. Gardez-vous de croire qu'il suffise de sortir du corps. Partout, il est besoin de vertu. Quand l'apôtre parlait de la résurrection, il n'a pas voulu que ce mot nous inspirât trop de confiance. Il disait « Si cependant nous nous trouvons revêtus et non pas nus ». De même, quand il parle de la séparation de notre âme avec le corps, il ne veut pas que nous la regardions comme suffisante pour le salut. Et il ajoute qu'il faut plaire à Dieu. Après les avoir ranimés par la vue de tant d'objets magnifiques, il leur inspire de la crainte en leur mettant sous les yeux des tableaux effrayants. Les avantages d'une vie vertueuse, c'est de mériter le bonheur et d'échapper au supplice, d'obtenir le royaume des cieux et d'éviter les feux de l'enfer. L'apôtre conclut en disant « Tous nous devons comparaître devant le tribunal du Christ ». Après avoir ainsi produit l'effroi dans les âmes, après les avoir ébranlés par la pensée de ce redoutable tribunal, il ne sépare point les menaces qui effraient des récompenses qui réjouissent, et il dit « afin que chacun rende compte de ses œuvres bonnes ou mauvaises ». Il fait briller au regard des justes et de ceux qui sont persécutés des récompenses bien capables de soutenir leur ardeur, et il fait retentir aux oreilles des pécheurs des menaces bien propres à les tirer de leur négligence. Et enfin, il donne une preuve de la résurrection des corps. Le corps, en effet, a prêté son ministère pour le bien et pour le mal. Il doit donc partager le sort de l'âme. Avec elle, il doit être puni, avec elle, il doit être couronné. Certains hérétiques prétendent que nous ressusciterons avec un corps différent de celui que nous avons eu sur la terre. Pourquoi donc, je vous le demande ? Notre corps a péché, c'est un autre qui subira la peine. Notre corps a fait le bien, c'est un autre qui recevra la couronne. Qu'avez-vous à répliquer à ces mots de l'apôtre ? Nous ne voulons pas être dépouillés, mais recevoir un vêtement plus précieux. Comment donc ce qui est corruptible peut-il être absorbé par la vie ? Saint Paul n'a pas dit « afin que le corps mortel ou corruptible soit absorbé par un corps incorruptible », mais « afin que la corruption soit absorbée par la vie ». C'est ce qui arrive lorsque le même corps que nous avions reprend une vie nouvelle. Mais si nous ressuscitons avec un autre corps, ce n'est plus la corruption qui est absorbée. Au contraire, elle demeure, elle triomphe. Or, ce n'est pas ce qui doit avoir lieu. Il faut que ce qui est corruptible, c'est-à-dire le corps, revête l'immortalité. Prêtons donc l'oreille à la voix de l'apôtre qui nous dit « Il nous faudra paraître devant le tribunal du Christ ». Représentons-nous ce tribunal, supposons qu'il est déjà dressé et qu'on nous demande compte de nos actions. Examinons notre conscience, songeons que nous sommes au pied de notre juge, que toutes nos actions sont dévoilées et produites au grand jour, car non seulement nous comparaîtrons, mais encore notre âme sera mise à découvert. Vous rougissez, vous êtes hors de vous-même. Cependant, ce n'est là qu'une supposition, qu'une fiction de notre esprit, et la vue de notre conscience nous effraie. Que ferons-nous donc quand ce jour arrivera, quand tout l'univers sera rassemblé, quand nous apercevrons les anges et les archanges, quand nous serons témoins de cet immense concours, quand nous verrons les saints emportés sur les nuages, quand nous aurons devant nous cette multitude saisie de terreur, quand nous entendrons le son bruyant des trompettes et ces cris sans cesse répétés. N'y eut-il point d'enfer ? Quel affreux supplice déjà que de se voir repousser avec tant d'éclat et de se retirer couvert de confusion ? Quand l'empereur entre dans une ville, nous sentons même notre misère et le spectacle que nous avons sous les yeux nous cause moins de joie que nous n'éprouvons de chagrin de ne pas avoir part à tant de magnificence et de ne pas approcher du souverain. Que sera-ce donc au jour du jugement ? Quel supplice de n'être pas admis dans le cœur des bienheureux, de ne point partager cette gloire ineffable, d'être repoussé bien loin de cette brillante assemblée, de ces biens que nul langage ne saurait exprimer. Mais songez ensuite à ces ténèbres, à ce grincement de dents, à ces chaînes indissolubles, à ce ver qui ne meurt point, à ce feu qui ne s'éteindra point, à ces horribles souffrances, à ces angoisses, à ce feu qui dévore la langue comme il dévorait celle du mauvais riche, à ces hurlements que personne n'entend, à ces cris de désespoir, à ces rugissements arrachés par la douleur, sans que personne y prenne garde, sans que personne ne vienne nous soulager. Que dire de pareilles tortures ? Quoi de plus malheureux que les âmes des damnés ? Y a-t-il spectacle plus lamentable ? Si nous entrons dans une prison, la vue de ces prisonniers presque nus, chargés de chaînes, épuisés de faim, plongés dans de ténébreux cachots, nous trouble jusqu'au fond de l'âme et nous glace d'horreur. Il n'est rien que nous n'endurions plutôt que de tomber dans ces affreuses demeures. Ah, quand nous nous sentirons traînés vers ces supplices de l'enfer, quelle situation plus affreuse encore ! Là, nous serons enchaînés, non point avec des chaînes de fer, mais avec les chaînes d'un feu qui ne s'éteindra jamais. Nous aurons pour bourreaux, non point des hommes comme nous, qui se laissent parfois apaiser, mais les anges que nous n'oserons même regarder, tant ils sont irrités contre nous par nos fautes d'autrefois. Là, personne ne viendra, comme il se pratique ici-bas, nous apporter ou de l'argent, ou de la nourriture, ou des consolations. En enfer, plus de pardon à espérer. Si le feu de la passion vous dévore, opposez-lui ces feux éternels, et le feu de la passion finira par s'éteindre. Si vous songez à prononcer quelques paroles inconvenantes, songez au grincement de dents, et la crainte mettra un frein à votre bouche. Voulez-vous prendre le bien d'autrui ? Écoutez la terrible sentence du juge suprême. Liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres extérieures, et vous bannirez le désir des richesses. Vous vous enivrez, vous ne pouvez vaincre cet odieux penchant. Écoutez le riche disant à Abraham, « Envoie Lazare afin qu'avec l'extrémité de son doigt, il rafraîchisse ma langue dévorée par l'ardeur des flammes, sans qu'il puisse rien obtenir, et votre penchant cédera. » C'est l'amour du plaisir qui vous captive. Songez aux souffrances, aux angoisses de l'enfer, et vous ne songerez plus aux délices d'ici-bas. Si vous êtes implacable et cruel, rappelez-vous ces vierges folles qui, pour avoir laissé éteindre leurs lampes, furent privées de recevoir l'époux, et vous deviendrez bientôt miséricordieux. Vous êtes paresseux et lâche, rappelez-vous cet homme qui cache son talent, et vous serez plus actif que le feu lui-même. Mais c'est la soif du bien d'autrui qui vous dévore. Songez à ce ver qui ne meurt point. Vous guérirez vite de cette maladie et vous accomplirez aisément toute la loi de Dieu. Car elle ne nous impose rien de pénible ni d'insupportable. Comment se fait-il donc que les préceptes du Seigneur nous paraissent si lourds ? Notre indolence en est la cause. Ayons un peu d'ardeur et ils nous deviendront légers et faciles. Mais si nous sommes lâches, ces préceptes si légers nous paraîtront difficiles à accomplir. Plein de ces pensées, songeons non pas aux délices que l'on peut goûter ici-bas, mais à leurs affreuses conséquences. Dans ce monde, tout est corruption, tout est charnel. Après la mort, ceux qui s'adonnent au plaisir seront dévorés par le ver qui ne meurt point et par le feu qui ne s'éteint point. Ne songeons pas aux richesses que procure le vol, songeons aux maux qu'elles engendrent. Ici-bas, les craintes et les angoisses, dans l'enfer, des chaînes indissolubles. Ne songeons pas à la gloire, mais à ses suites funestes. Ici-bas, c'est l'esclavage, c'est la dissimulation. Dans l'autre vie, ce sont d'insupportables supplices, les tourments que cause une flamme dévorante. Répétons-nous sans cesse à nous-mêmes ces salutaires paroles, opposons-les à la voix de nos passions. Nous apaiserons bien vite la soif des biens de ce monde, nous allumerons promptement dans nos cœurs l'amour des biens à venir. Ah, cet amour qu'il s'allume, qu'il s'enflamme. La pensée toute seule de ce bonheur, si faible qu'elle soit, ne nous remplit-elle pas de joie ? Quel charme n'éprouverons-nous donc pas lorsque nous le goûterons réellement ? Heureux, mille fois heureux ceux qui l'obtiendront. Malheureux, au contraire, mille fois malheureux ceux qui endureront les tourments de l'enfer. Soyons du nombre des premiers et non point parmi les derniers, et pour cela pratiquons la vertu. C'est ainsi que nous parviendrons au bonheur éternel. Puissions-nous tous en jouir par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui gloire, puissance, honneur avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Onzième homélie. Remplis de la crainte du Seigneur, nous cherchons à persuader les hommes, et Dieu voit le fond de notre cœur. J'espère aussi que vos consciences ont de nous une connaissance exacte. Verset 11. Tremblant nous-mêmes à la pensée de ce redoutable tribunal, nous nous efforçons de ne vous donner aucune prise contre nous, de ne vous causer aucun scandale, de ne faire naître en vos âmes aucun fâcheux soupçon. Voyez quelle perfection, quelle délicatesse de conscience. Il ne nous suffit point de ne pas faire le mal pour être à l'abri des reproches. Si l'on nous soupçonne même sans fondement aucun, et que nous ne nous efforcions point d'écarter ces soupçons, nous méritons d'être punis. Nous ne nous recommandons point auprès de vous, nous vous donnons seulement occasion de vous glorifier à notre sujet. Que de fois il se défend de faire son propre éloge. Rien n'offense autant les auditeurs que d'entendre un homme se décerner de pompeux éloges. Forcé de se donner à lui-même des louanges, il reprend aussitôt. « C'est à cause de vous que je m'exprime de la sorte, et non pas à cause de moi, afin que vous ayez lieu de vous glorifier, et non pour nous arroger à nous-mêmes quelque gloire. » Il avait aussi en vue les faux apôtres. C'est pourquoi il ajoute auprès de ceux qui se glorifient extérieurement, mais non dans le cœur. Verset 12. Voyez-vous comme il les détourne de ces hommes dangereux pour se les attirer à lui-même, en montrant aux Corinthiens qu'eux aussi désirent trouver une occasion de le soutenir et de le défendre contre ses détracteurs. Si nous vous parlons de la sorte, dit-il, ce n'est point afin de nous glorifier nous-mêmes, mais bien pour que vous puissiez parler de vous-même librement en notre faveur. C'est ainsi qu'il leur témoigne son amour. Non seulement je me propose votre propre gloire, mais encore de vous prémunir contre leur piège. Il ne le leur dit pas en propres termes, mais c'est la pensée qu'il exprime dans un langage plein de modération et incapable de blesser personne. Afin que vous puissiez vous glorifier en présence de ceux qui se glorifient eux-mêmes extérieurement. Et encore, le recommande-t-il de ne point le faire sans motif, mais uniquement lorsque les faux apôtres feront paraître de l'orgueil. Partout, il exige que l'on se guide sur les circonstances. Si nous semblons exagérer, c'est pour Dieu. Si nous parlons un humble langage, c'est pour vous. Verset 13. Oui, dit-il, soit que nous nous louions nous-mêmes, c'est ce qu'il appelle exagérer, comme ailleurs il dit être insensé, nous le faisons à cause de Dieu. À la vue de notre bassesse, peut-être nous mépriseriez-vous et ainsi vous courriez à votre perte. Si au contraire nous parlons un langage plein de modération et d'humilité, c'est pour vous apprendre à vous-même à demeurer toujours humble. Ou bien encore l'apôtre veut dire « Si l'on nous traite d'insensés, c'est de Dieu que nous attendons notre récompense après avoir été l'objet d'un tel outrage. Si au contraire on reconnaît notre sagesse, on en recueillera les précieux avantages. Ou bien encore on nous regarde comme un insensé. Eh bien, c'est à cause de Dieu que nous sommes insensés. » Aussi ajoute-t-il « La charité de Dieu nous presse et nous pensons. » Verset 14. Ce n'est pas seulement la crainte de l'enfer qui nous défend de nous engourdir dans un lâche sommeil, mais le souvenir du passé nous excite sans cesse à supporter pour vous de si grandes fatigues. Et quels sont ces événements passés? Si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. L'apôtre s'exprime donc comme si tous étaient morts. Si tous, en effet, n'eussent pas été morts, le Christ ne serait point mort pour nous, pour tous. Ici-bas, le salut est possible, mais après cette vie, il n'est plus possible de se sauver. C'est pourquoi l'apôtre dit « La charité du Christ nous presse et ne nous laisse prendre aucun repos. » Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 15. Si donc nous ne devons point vivre pour nous-mêmes, ne vous troublez point, ne vous effrayez point à l'approche des dangers et de la mort. C'est un devoir pour nous et la raison qu'il en donne est convaincante. Puisque c'est la mort de Jésus-Christ qui nous a donné la vie, ne devons-nous pas vivre pour celui à qui nous la devons? Saint Paul semble n'avoir exprimé qu'une seule pensée, mais si nous y prenons garde, il y en a deux. La première, que nous vivons par Jésus-Christ, la seconde, qu'il est mort à cause de nous. L'une ou l'autre suffit pour nous mettre sous sa dépendance. Mais quand elles se réunissent toutes deux, jugez quelles sont nos obligations. Ou plutôt, il y a là trois choses, car il est ressuscité d'entre les morts et a transporté l'homme dans les cieux. Voilà pourquoi saint Paul ajoute « à celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous ». C'est pourquoi, depuis ce temps, nous ne connaissons plus personne selon la chair parmi les fidèles. Car si tous sont morts, victimes de la tyrannie du péché, si tous sont ressuscités par le baptême de la régénération et le renouvellement opéré par l'Esprit-Saint, l'apôtre a raison de dire « Nous ne connaissons plus personne d'entre les fidèles selon la chair ». Ils sont encore dans la chair, je le veux bien, mais en eux, il n'y a plus de vie charnelle. Et de plus, nous avons été engendrés dans le Saint-Esprit. Et maintenant, nous ne connaissons plus d'autre conduite, d'autre vie que la vie du ciel. L'auteur de ce bienfait, c'est encore le Christ, ainsi que le dit l'apôtre. Si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de la sorte. Et quoi, direz-vous? Jésus-Christ a-t-il déposé la chair? N'a-t-il plus de corps? Loin de nous cette pensée.
Maintenant encore, il est revêtu de sa chair. Ce Jésus qui a été élevé au ciel, dérobé à vos regards, viendra comme vous l'avez vu monter, c'est-à-dire dans la chair et avec son corps. Pourquoi donc l'apôtre dit-il, si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de la sorte ? Pour nous, être dans la chair, c'est être dans le péché, et n'être pas dans la chair, c'est n'être pas dans le péché. Quand il s'agit du Christ, cette expression « selon la chair » signifie les affections naturelles, comme la faim, la soif, la fatigue, le sommeil. Car il n'a point commis le péché, et la ruse ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Et c'est pourquoi le Sauveur disait « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et encore, le prince de ce monde est venu, et il n'a rien en moi. Cette expression « non selon la chair » nous dit qu'il n'est plus sujet à ces sortes d'affections, mais non pas qu'il n'a point de corps. Car il doit venir un jour revêtu de sa chair, désormais impassible et immortel pour juger l'univers. Alors aussi, nos corps seront transformés comme le sien et resplendiront d'une gloire semblable.
Mes auditeurs, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre dans notre commentaire avec Saint Jean Chrysostome. Bonne semaine à l'écoute des programmes de votre radio chrétienne.